Radio Campus Lille, il est 8h.
Un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel. Vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Il est 8h normalement sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers vendredis du mois de 8 à 9, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien?
Salut Max, comment tu vas?
Eh bien très bien. Alors dis-moi, qui nous as-tu préparé comme invité aujourd'hui?
Alors aujourd'hui on est garni, on a deux invités.
Oh.
Deux. Et pas des moindres. Je te présente Isabelle Dorès, qui est militante d'ATD Carmonde, entre autres, et Philippe Lestavel, qui est médecin urgentiste.
Enchantée.
Et donc je vais leur proposer, parce qu'aujourd'hui c'est le mois du soin, c'est le mois de juin, le mois du soin. Et donc on va explorer l'idée du revenu de base par rapport à la santé. Voilà, c'est un thème assez global. Donc je vais laisser Isabelle se présenter et répondre à la fameuse question. Isabelle, avec un revenu de base, qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Donc, bonjour, donc Isabelle Dorès, donc je suis à ATD Carmonde depuis beaucoup d'années, plus de 27 ans je crois.
Vous parlez dans le micro.
Oui, plus de 27 ans. Donc dans beaucoup de travaux récents en fait avec des allocataires du RSA en particulier sur comment on peut vivre avec un revenu minimum social aujourd'hui. Je ressens une grosse colère contre la société et une énorme indignation parce que pour moi la façon dont on donne les revenus minimums aujourd'hui, c'est complètement indigne et non respectueux d'une personne. Or pour moi une société digne, c'est une société qui respecte tout le monde, et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec ces revenus minimums. Donc un revenu de base, je pense que ça changerait en grande partie ça, en particulier sur les aspects de conditionnalité et de sécurité, d'un vrai filet de sécurité, ce que ne sont pas les minima sociaux aujourd'hui.
Donc en gros, s'il y avait un revenu de base, pour toi personnellement, ça t'apaiserait quoi.
Voilà, je serais moins indignée.
Tu serais plus calme.
Donc, plus confiance dans la société.
Si vous voulez calmer Isabelle, s'il vous plaît, signez l'ICE, défendez un revenu de base vite. Merci Isabelle. Et toi Philippe?
Oui, bonjour. Donc Philippe Lestavel, je suis médecin réanimateur et urgentiste depuis plus de 40 ans, facile maintenant. Est-ce que cela aurait changé quelque chose pour moi? Je pense que j'aurais fait les mêmes choix et j'aurais pu, à titre personnel, avoir le même cursus que je referais. Et qu'est-ce que ça changerait maintenant? Je serais un père beaucoup plus tranquille.
Ah, pourquoi?
Puisque j'ai trois enfants, trois fils qui terminent leurs études et qui vont se retrouver à la recherche d'un emploi salarié dans des conditions pas faciles actuellement. Mmh. Alors que c'est là justement où on doit pouvoir, à mon avis, expérimenter un peu des choses dans la vie. Pour travailler pour des associations, travailler, découvrir le monde du travail, sans forcément être dans un rapport salarié très très contraignant et très angoissant, afin de plus s'épanouir et peut-être de trouver vraiment une voie qui convient et qui permette de faire un travail passionné. J'ai eu la chance, moi, de le trouver, donc j'espère qu'eux aussi, ils auront cette opportunité sans être happé dans un système très contraignant, assez angoissant, et où peut-être s'il y avait un revenu de base, d'ailleurs, le confort des jeunes qui travaillent, et de manière générale, le confort au travail serait plus considéré. puisqu'il y aura un degré de liberté supérieur à ceux qui recherchent un emploi.
Tout à fait. Et on sait maintenant, parce qu'il y a des tas d'études en neurosciences, je peux vous citer par exemple le numéro de Cerveau et Psycho numéro 124 qui parle justement de comment vivre en accord avec soi-même. Et donc Cerveau et Psycho, c'est un magazine de vulgarisation scientifique que j'aime beaucoup parce que ça me permet de crâner très régulièrement. Et en fait, il résume plusieurs études qui prouvent que quand on est en accord avec soi-même, ben on est beaucoup mieux. Alors ça a l'air évident, sauf qu'au travail, ça a des conséquences très très concrètes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où au travail, il faut toujours se suradapter, ou s'il n'y a pas de sens dans notre travail, ou si on est dans des valeurs ou dans des injonctions paradoxales, eh bien figurez-vous qu'on est plus facilement malade, et même dépressif, et que ça pèse et ça a un réel coût. Alors un coût financier, un coût humain, comme on dit aujourd'hui. Donc effectivement, un revenu de base, sans doute, aiderait à fluidifier les conditions de travail, on en reparlera peut-être. Donc ce que j'entends, c'est qu'avec un revenu de base, autant Isabelle se calmerait moins de colère, autant toi, tu serais moins inquiet pour tes enfants, finalement.
Oui, puis je respirerais surtout quelque chose de plus serein, de moins agressif, de moins compétitif et de plus épanouissant que ce que l'on vit actuellement.
Bon, donc on relance un appel au monde entier, parce que là, il faut faire quelque chose pour vous. Hein. Soyons clairs, c'est urgent. Alors, le premier thème dont on a parlé et qu'on a prévu de partager avec vous aujourd'hui, c'est par rapport à ce thème de la santé, c'est l'accès aux soins. Donc, on va commencer par un constat. Le constat aujourd'hui, alors évidemment, on voit, on est après une pandémie, on se dira après, presque après une pandémie, donc qui a sans doute accentué les choses, mais les choses dont on va parler, les événements, les logiques qui sont en place, ne datent pas que de la pandémie. N'est-ce pas, Isabelle ?
Oui, donc en fait, bon, moi je fais un lien très fort entre la grande pauvreté, oui, la grande pauvreté et la santé. Hein. ATD Quart Monde a travaillé récemment avec l'université d'Oxford en fait sur les différentes dimensions de la pauvreté, puisqu'en fait on a toujours tendance à parler de la pauvreté uniquement d'un point de vue financier, c'est-à-dire on quantifie, on dit que quelqu'un est pauvre s'il touche moins de 60% du revenu médian de la société, ce qui est quand même ce qui est à peu près plus de 1000 euros. Hein. Donc aujourd'hui, avec par exemple un RSA à 460 euros, si on enlève le forfait logement qui est retiré à la plupart des gens, on est quand même très loin de la situation. Mais cette dimension financière ne suffit pas du tout pour parler des gens qui vivent la précarité. Et on aimerait beaucoup qu'il y ait d'autres indicateurs qui puissent en parler. Et parmi ces indicateurs, donc dans cette recherche avec l'Université d'Oxford, ce qui a été mis en avant, c'est que dans les dimensions de la pauvreté essentielle, il y a vraiment la dégradation physique et mentale des personnes qui vivent la grande pauvreté. Donc vivre dans la pauvreté, c'est vraiment vivre des souffrances physiques, matérielles, mais aussi émotionnelles, très fortes, très intenses, et qui sont accompagnées souvent d'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, en fait, on perd complètement confiance en soi, on ne peut plus avancer, on a l'impression qu'on pourra plus rien y faire. Et voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut arriver à combattre. Je peux vous citer juste donc une maman récemment, hein, dans un travail avec la Cour des comptes sur le RSA, citait « À la maison, on se serre souvent la ceinture, surtout moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai quasiment rien mangé pendant 2 semaines. Je finissais les restes de mes enfants. Je suis allée à l'hôpital et on m'a dit qu'il fallait que je mange et que je me repose. Pour moi, la priorité, c'est que mes enfants aient à manger. J'ai le RSA parce que j'ai mes enfants. C'est le RSA de mes enfants. » Voilà, donc aujourd'hui, on a quand même des minima sociaux qui permettent absolument pas à ceux qui le perçoivent d'assurer les accès à des besoins fondamentaux et ne permet pas d'être libéré de la peur du lendemain, qui était quand même l'objectif de la sécurité sociale en France et du coup des revenus minimums. Et ces privations matérielles créent vraiment une souffrance du corps, de l'esprit, du cœur et empêchent absolument la projection vers l'avenir. Donc chaque démarche pour les personnes en grande précarité ressemble souvent à une lutte du quotidien qu'on ne leur reconnaît pas. On ne reconnaît pas toute cette énergie qu'il faut mettre pour résister, tenir, avancer de jour en jour, hein, quand il y a tant d'obstacles. Et aussi, ce qu'on ne mesure pas, c'est la dépendance dans laquelle ils sont des autres et de la société et qu'on décide toujours pour eux. Et ça crée des phénomènes à la fois sur la santé mentale et physique qui sont énormes. Ça prédispose à de nombreuses maladies, hein, qui sont d'autant plus sévères que l'accès aux soins pour ces personnes est souvent difficile. Ils n'ont pas forcément les conditions d'accès pour accéder aux meilleurs soins. Et Philippe, peut-être on parlera un peu plus que moi sur la réalité de cet accès aux soins. Ça génère aussi un grand isolement, souvent, hein, isolement à la fois social, parce que si vous n'avez pas assez, vous ne pouvez pas aller partager un verre avec des copains, ou vous avez un peu peur d'être invité parce que vous ne pourrez pas ramener quelque chose à offrir, ou vous ne pouvez pas recevoir chez vous parce que ça ne permet pas. Voilà, donc un isolement social et souvent familial aussi très fort, en fait. Donc ce qu'il faut vraiment arriver à prendre en compte, c'est le phénomène de pauvreté comme quelque chose de multidimensionnel, hein, prendre les choses de façon systémique, dont l'aspect dégradation de la santé. Alors, dans le cadre de la recherche, on a fait faire un exercice à des gens en dessinant une silhouette, en fait, de repérer sur cette silhouette où est-ce que la pauvreté touchait. Est-ce que ça touchait plus la tête, le cœur, voilà, ce qu'on appelle un exercice de body mapping. Donc, être pauvre, mais qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, les réponses, c'est... c'est que c'est tout le corps qui est pris. Voilà, il n'y a pas un endroit dans le corps où on n'est pas touché par la pauvreté. Enfin, voilà, c'est ce qui ressort un peu de ce que les gens ont exprimé. Ce sont tous les signes extérieurs d'ailleurs qui ressortent. On a souvent des gens qui sont marqués par la misère. Hein. Ça marque les corps, ça vieillit prématurément. Donc par exemple, si on prend les 5% des personnes les plus pauvres, les 5% des hommes les plus pauvres dans notre société et les 5% des personnes les plus riches, des messieurs, les plus riches, on a 13 ans d'espérance de vie de différence, ce qui est quand même énorme. Mmh. Voilà. Pour les femmes, c'est 8 ans dans la même proportion, mais voilà, on a quand même un écart d'espérance de vie qui est énorme. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis d'ATD Carmonde qui vivent dans les grandes précarités, qui sont malheureusement décédés à des âges où peut-être qu'ils étaient dans un autre milieu social, ils ne seraient pas partis. Voilà. Il existe un autre témoignage. Hein, tu te sens tellement fatigué que tu vieillis prématurément. Quand on vit dans la rue, on est marqué physiquement. Enfin voilà, pour conforter un petit peu ce qu'on disait. Il existe vraiment un mal-être psychique qui est expliqué beaucoup par le stress, la fatigue, l'angoisse. Je pense qu'on ne mesure pas assez ce stress et cette incapacité du coup d'avoir confiance en qui que ce soit, tellement on s'est pris de claques, tellement on a senti le mépris, et du coup ça va jusqu'à la dépression, souvent qui peut conduire à des addictions, à différents produits, alcool, tabac, drogue, médicaments, suivant ce à quoi on peut avoir accès, et qui aggrave cette situation de pauvreté et qui aggrave forcément la santé. Aussi, quand on est dans cette lutte du quotidien ou cette dépendance aussi de ce que décident les autres, la prise en charge de la santé pour les personnes en grande précarité n'est pas une priorité. C'est-à-dire, en fait, on cumule tellement de difficultés que voilà, qu'il y a tellement d'autres choses à voir avant. Quand il faut voir où est-ce qu'on va loger ce soir ou qu'est-ce qu'on va donner à manger demain aux gosses, c'est pas la priorité. Et puis, il y a des peurs aussi. Hein, c'est-à-dire, si je suis personne seule en grande précarité avec mes enfants à qui j'ai pas tout à fait de quoi donner à manger, à qui j'ose pas aller parler à l'institut quand ils ont des problèmes à l'école, parce que moi-même j'ai eu un rapport à l'école compliqué. J'ai très peur que si je doive être hospitalisée pour me faire opérer, l'assistante sociale vienne et dise que mes enfants ne vivent pas dans des conditions correctes et du coup les place et que je puisse pas les récupérer pendant très longtemps. Voilà, c'est des types de peurs qu'on mesure pas du tout et qui sont des vrais obstacles à l'accès aux soins. Beaucoup d'émotions, de sentiments négatifs aussi, qui font qu'on ne peut pas se battre et aller se faire soigner. Je peux citer quelques autres témoignages et puis peut-être après passer à d'autres. D'autres points. À force de vivre dans la misère, à force de vivre des problèmes, le cerveau est atteint. Le psychique encaisse et devient malade. L'angoisse extrême fait qu'on a une boule dans la gorge. Des fois, j'arrive même plus à manger. Tout le monde ne vit pas cela, mais c'est le symptôme d'une grande angoisse ou de dépression. Autre témoignage, je suis tombée dans l'alcool, ce qui n'a pas arrangé les choses. La misère nous fait plonger dans un autre truc qui l'a fait empirer. On boit pour oublier, on pense oublier, mais tous les problèmes restent là.
On est très très loin des préjugés qu'on peut avoir, ou tant qu'on n'y a pas goûté, tant qu'on n'a pas vécu ça, on a du mal à voir finalement derrière les façades ou derrière les chiffres qu'on nous balance en disant c'est les aides, ils ont suffisamment, on leur donne même gratuitement ou même quelquefois on leur demande du bénévolat contre ces quelques miettes, de voir que finalement derrière il y a de l'hypervigilance, il y a du stress tout le temps. Et...
En fait, nous, on voudrait vraiment faire reconnaître le combat des personnes en grande précarité, parce qu'en fait, dans le quotidien, si on était dans leur situation, si on avait vécu toutes les humiliations qu'ils ont pu vivre, je ne suis pas sûre qu'on tiendrait. Quoi. Et ce combat du quotidien, il y a vraiment vraiment, il faudrait le connaître. Et puis aussi, une des autres dimensions de la pauvreté qu'on estime qui n'est pas reconnue, c'est des compétences acquises. C'est-à-dire les gens, justement, pour s'en sortir, ils développent plein de compétences. Mais c'est des compétences, certes, qui sont très loin des compétences qu'on acquiert à l'école, des compétences qu'on met en valeur dans notre société, mais ils ont des compétences dans la débrouillardise, dans la solidarité, qui sont énormes. Ce qu'on ne se rend pas compte, souvent, on parle de la solidarité vis-à-vis des pauvres, mais en fait, les premiers solidaires de France, c'est les pauvres, parce que on connaît multiples personnes qui sont à la rue. Enfin, quelqu'un en grande précarité ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre à la rue, et on connaît plein de gens qui accueillent des personnes chez eux, qui hébergent quelquefois très longtemps d'autres personnes en précarité. Et voilà, et le premier hébergeur de France de crise, c'est les pauvres eux-mêmes. Et je ne suis pas sûre que d'autres personnes dans la société feraient ça aussi facilement. Alors, quelquefois, ça ne se termine pas bien. Et puis, les gens qui font ça prennent du risque, parce que souvent, ils sont dans les logements sociaux où ils touchent les APL, où le RSA est conditionné au nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Et donc, si les contrôleurs de la CAF et autres apprennent que vous hébergez quelqu'un, en fait, vous prenez le risque de voir vos revenus directement être réduits. Donc, ils prennent en plus des risques que personne d'autre ne prendrait dans la société. Voilà. Donc, il y a un système de contrôle de notre société, des préjugés énormes, et du coup, et en plus, une incapacité des personnes de pouvoir exprimer ou s'intégrer, parce qu'ils ont tellement vécu de choses humiliantes que ça devient très difficile et ils ont perdu confiance.
J'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à Athée des Quart-Monde, parce que c'est pour moi une association qui n'est pas comme les autres, parmi toutes celles qui travaillent dans la pauvreté ou contre la pauvreté. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans votre façon de travailler, c'est que vous travaillez avec les personnes. Et j'ai envie de citer Gandhi qui disait « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Et pour moi, c'est aussi lié à cette histoire de revenu de base. C'est-à-dire que le revenu de base, c'est donner de l'argent et laisser la liberté, le libre arbitre aux gens de l'utiliser comme ils le souhaitent. Et j'aime beaucoup. Et si tu veux bien relire ou continuer à lire quelques témoignages, je sais que tu en as quelques autres. Pour moi, c'est très précieux parce que c'est des paroles qu'on entend peu. Dans le studio, on ne pouvait pas inviter une dizaine de personnes. Donc voilà, c'est important pour moi que tu sois aussi représentatif. Tu leur donnes de la place et de la voix ici.
Non, je trouve terrible, cette culture de la réussite individuelle et personnelle. Et si vous n'arrivez pas à quelque chose de reconnu socialement à titre personnel, vous déméritez.
Et c'est une responsabilité personnelle,
et c'est de
individuelle.
Votre faute.
Voilà, c'est ça.
Et on entend encore, si les gens sont dans la misère, c'est parce qu'ils ont fait des mauvais choix, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir, parce qu'ils ne font pas d'efforts. Et c'est une dimension uniquement basée sur la réussite personnelle et surtout économique. Et la dimension sociale, justement l'entraide, la réussite collective, n'est absolument plus une valeur qui est mise en avant. D'où cette stigmatisation qu'on voit dans tous les milieux, y compris dans les milieux soignants, parfois pas, pas très souvent, heureusement, mais de l'échec, de la pauvreté qui est vécue comme non pas une fatalité, une épreuve, mais comme le résultat d'un échec personnel. Et ça, c'est absolument épouvantable.
Et du coup, d'une identité dégradée, d'une baisse
du coup,
terrible
dévalorisation,
de soi, qui se répercute sur l'éducation des enfants, parce que forcément, voilà. Comment partager ses propres valeurs. Isabelle, est-ce que tu veux...
Merci d'abord de rappeler un peu la spécificité d'Athée des Quart-Monde. C'est vrai que ce qui fait la spécificité vraiment de notre mouvement, c'est qu'il a été fondé par une personne en fait qui a connu lui-même la grande précarité et qui du coup a vécu ce combat comme un combat de son peuple. C'est comme ça qui parlait des gens en situation de grande précarité et qui a démontré, qui a fait reconnaître au niveau national que la grande misère, c'est-à-dire un cumul d'insécurité, d'inégalité, que la grande misère était une violation des droits de l'homme. Et que donc, c'est bien un combat pour les droits qui sont... Et pour que... Alors, il y a un titre d'un rapport au CESE qui dit que ce qu'il faut, c'est avoir l'accès de tous aux droits de tous par la mobilisation de tous. Voilà, c'est un peu ça. Et en effet, ce qu'on croit beaucoup, c'est que c'est par la rencontre entre des gens de la société, entre personnes qui vivent en grande précarité et d'autres, qu'on arrivera à faire comprendre ce que chacun vit et à mieux connaître l'autre. Et sur la remarque de Philippe de la méritocratie ou de l'individualisme, hein, c'est clair qu'on a complètement perdu la notion de solidarité nationale qui était très forte à l'après-guerre. Donc je pense que tu as un témoignage, Virginie, qui rappelle un peu cet historique-là et que ça s'est complètement dilué avec le développement des théories libérales. Voilà, parce que pour les libéraux purs, en fait, la société n'existe pas, il n'y a que des individualités. Et enfin, vous reprenez certains discours de Madame Thatcher, c'est très très clair. Donc il y a un déni de la société, et ce qu'on aimerait beaucoup retrouver, c'est justement de refaire société ensemble, avec chacun ayant sa place, et la rencontre aussi entre personnes différentes.
Alors on va laisser Max nous proposer une petite respiration musicale et juste après on vous explique mais pourquoi l'hôpital n'est pas à la hauteur de tout ça, on ne comprend pas.
Et ce sera dans la joie et la santé avec Raoul de Gosverveld sur les ondes de Radio Campus 106,6, c'est parti.
Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir le moral. On va se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Au cœur de mon époque, je suis un brave garçon. Je cherche le dialogue et la concertation. Je me sens responsable jusqu'au bout des structures. Et je suis motivé par l'érotisme et la culture. C'est vrai, c'est vrai. Je veux participer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Conscient de mes lacunes, pour mieux me recycler, je fais cause commune avec les concernés. Je suis dans mon contexte comme un poisson dans l'eau. Je pense et je conteste et je suis pas un rigolo. C'est vrai, c'est vrai. Je veux participer dans la joie et la santé, dans la joie et la santé. L'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé. L'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé. L'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller, l'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé.
La santé est notre bien le plus précieux, mais aussi le plus précaire. Donc quand on entend tout ce qu'Isabelle partage avec ses témoignages, on se dit, mais quand même, il y a des services publics, il y a un hôpital, il y a même la CMU. Mais alors, mais pourquoi ça ne marche pas?
Oui, bien sûr. Hein, l'hôpital devrait être la réponse évidente à l'accès aux soins pour les gens précaires. Je vais vous décevoir, hein, parce que malheureusement, je pense que actuellement, l'hôpital répond de plus en plus mal et très difficilement à cette demande.
Pourquoi ?
Alors, parce que c'est une demande complexe. La prise en charge des gens qui sont en grande précarité est compliquée parce qu'ils n'ont pas souvent une seule pathologie, mais plusieurs pathologies associées. Mmh. Or, la médecine maintenant est découpée en tranches de plus en plus hyper spécialisées. Et ensuite, la prise en charge, elle est aussi psychologique, sociale, éducative. Et tout ça demande beaucoup de temps. Or, depuis plus de 10 ans, l'hôpital a beaucoup évolué, et initialement sur des raisons uniquement économiques. Vous connaissez la phrase célèbre, hein, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est vrai qu'il y avait une inflation importante des dépenses de santé, jugée depuis 15 ans comme étant intolérable, avec des prélèvements beaucoup trop élevés. Enfin, vous connaissez cette phraséologie très libérale aussi également. Alors depuis 2005, il y a eu mise en place d'une tarification à l'activité. Alors avant, ce n'était pas génial non plus, la manière dont les hôpitaux étaient financés. Et donc là, on a dit, on va payer les hôpitaux pour ce qu'ils font. C'est une tarification à l'activité. Puis on va bloquer l'enveloppe des dépenses de l'assurance maladie en votant annuellement le montant global qui est bloqué au niveau par les députés. Ce n'est pas le l'ONDAM. Voilà. Et au départ, bon, c'était pas forcément. Ça n'a pas eu que des effets négatifs, hein, parce que c'est vrai que l'argent public doit être bien dépensé, on est tous d'accord avec là-dessus. Et donc, il y avait des économies à faire, des restructurations intéressantes à proposer pour mieux dépenser l'argent. Alors, au bout de quelques années, ces économies ont été réalisées. Tous les hôpitaux ont fait des efforts pour éviter de dépenser de l'argent inutilement pour mieux fonctionner, pour mieux restructurer. Le problème, c'est que la T2A a créé un déficit financier chronique dans les hôpitaux.
La T2A ?
Pardon, la tarification de l'activité, c'est-à-dire que je vous paye pour ce que vous produisez en termes de... Tu vois le terme, vous produisez des soins, et vous allez être payé, vous, hôpital, sur les soins que vous réalisez. Mais comme l'enveloppe est bloquée, et que les tarifs ont constamment diminué, on a mis toutes les conditions pour que les hôpitaux aient un déficit chronique.
Oui, parce que si le tarif est bloqué, ça veut dire qu'on préjuge d'avance du nombre de soins qu'on va devoir donner
pendant
un an.
Vous êtes opéré d'une appendicite. Ben, une appendicite, je vais chronométrer le temps infirmier, le nombre de compresses, le coût du bloc opératoire, et vous avez X milliers d'euros. Ou centaines d'euros, milliers d'euros, pour traiter cette pathologie. Point. Vous comprenez ?
Donc il ne faut pas de complications,
voilà.
Il ne faut pas que ça déborde.
Tout à fait. Sinon, vous travaillez à perte. Et comme tout le monde a voulu avoir des capacités d'investissement, mieux fonctionner, il y a une sorte de course à l'échalote qui s'est mise en place entre les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il fallait de plus en plus produire pour recevoir de plus en plus d'argent. Et avec un système de concurrence entre établissements. Ce qui est aussi un effet pervers, il y a eu des effets positifs, je l'ai rappelé, mais des effets pervers, ce qui fait que certaines pathologies sont rentables, vous avez de l'argent par la caisse d'assurance maladie de manière suffisante pour rentrer dans vos frais, et d'autres non. Et donc les hôpitaux se sont mis à faire du business plan, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme activité médicale pour lequel je vais gagner de l'argent et surtout ne pas en perdre. Parce que de toute façon, les tarifs baissent tous les ans, puisque tous les hôpitaux veulent augmenter leur activité. Tous les hôpitaux augmentent leur activité, mais l'enveloppe est fermée, donc les tarifs baissent. Et donc plus vous travaillez, plus vous faites de l'activité, vous n'augmentez pas les revenus de l'hôpital. Tout juste, vous les maintenez. Et donc il y a une sorte de course en avant, comme ça, constante, qui est absolument terrible et qui est un effet pervers de ce système qui est uniquement basé sur un paiement à l'activité. Et donc, qu'est-ce qui est valorisé ? C'est les séjours très courts. Puisque si vous recevez 2000 euros et que le malade reste 2 jours, c'est rentable. S'il reste 1 semaine, ça ne l'est plus. Donc, il faut que le malade reste très peu de temps et avec des actes techniques. Parce que ce qui est valorisé, c'est l'acte technique.
Donc pas le suivi psychologique,
absolument,
ou l'accompagnement social ou...
Ni l'environnement social, ni l'acte psychologique, ni tout ce temps nécessaire à permettre à un patient de s'approprier sa pathologie, de bien la comprendre, de faire de la prévention de santé, de le faire de l'éducation, de lui redonner les moyens d'assumer, d'être le propre acteur de sa santé. Tout ça, ça prend du temps. Et ça, c'est pas du tout ce qui est conseillé. Si vous le faites... Vos durées de séjour augmentent et on vous tape sur les doigts en disant « Monsieur, vos durées de séjour sont beaucoup trop longues. »
Alors que c'est ça qui marche finalement, quand on fait de la prévention, quand on implique les gens.
C'est parfois nécessaire, c'est pas forcément obligatoire. Hein. Il y a plein de gens qui sont contents de sortir très vite de l'hôpital, hein, et quand ça se passe bien, pourquoi pas. Et quand c'est nécessaire, eh bien ma foi, c'est pas du tout quelque chose qui est encouragé. Et puis après, c'est la course aussi aux baisses des charges, on en reparlera pour le personnel, hein. C'est, on comprime toutes les dépenses, surtout les dépenses de personnel, mais aussi tous ces revenus annexes, on ne parle plus que de ça, l'hôpital, hein. Donc le téléphone, la télévision, l'accompagnement, la chambre privée, le parking, tout devient absolument payant. En fait, ce qui s'est développé, c'était peut-être... pas forcément l'intention au départ, qui était un contrôle des dépenses, hein. Mais ce qui s'est développé, c'est l'hôpital-entreprise. Voilà. L'hôpital n'est plus juste un service public, c'est une entreprise qui a une logique marchande. Et les soignants ont perdu tout pouvoir dans cette structure, maintenant elle est entièrement dirigée uniquement par des gestionnaires. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour diminuer les coûts? Eh bien, on a réduit le nombre de lits. Il faut faire autant de malades, plus de malades, dans moins de lits, avec des séjours très brefs. Et vous avez bien entendu parler de plus des dizaines de milliers de lits de court séjour qui ont été supprimés dans les hôpitaux en France pour créer, en nombre inférieur, mais des lits dits d'ambulatoire. Donc vous rentrez le soir, vous sortez le matin. Vous restez qu'une nuit à l'hôpital. Alors, c'est très contraignant, ça, avec une incitation budgétaire. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on paye bien au départ, c'est l'ambulatoire, après on baisse les tarifs, et pour encourager les hôpitaux à garder les malades très, très peu de temps. Alors, c'est pour les patients précaires, c'est dramatique, ça. C'est certain. Parce que si vous restez qu'une nuit à l'hôpital, les soins doivent se poursuivre, hein, quand même. Ensuite, il y a un suivi à appliquer. Mais si vous êtes isolé socialement, c'est tout ça facile. Si votre domicile est éloigné du centre de soins, c'est compliqué. Il y a des déplacements. Vous n'avez pas forcément la facilité de vous déplacer. Et puis, ça repose sur les aidants familiaux. Alors, la famille, hein, qu'on a appelé pudiquement les aidants familiaux, pour leur donner un rôle bien, bien important. Et puis, au pire, on arrive à des choses qui sont pour moi des choses assez épouvantables, qui existent dans les pays anglo-saxons. Il y a des projets en France, je crois qu'il y en a même quelques-uns, qu'on appelle les hospitels. C'est-à-dire, vous restez une nuit à l'hôpital, mais quand même, il faut quand même vous surveiller. Donc, on a créé un hôtel à côté, et puis on vous met dans cet hôtel. C'est-à-dire qu'on a privatisé l'hébergement, ni plus ni moins. D'accord ? Et les sommes restant à charge pour le patient, elles existent, hein, vous savez. Hein,
il y a bien sûr.
Un forfait journalier, dans chaque boîte de médicaments, chaque consultation, chaque déplacement en ambulance ou en taxi-ambulance, il y a un reste à charge pour le patient. Et ça a quand même tendance à augmenter. Donc quand vous avez une bonne mutuelle, tout va bien. Si vous n'avez pas fait valoir vos droits pour la complémentaire de la CMU, ou si vous êtes un peu sorti du circuit, eh bien ça devient juste tout à fait impossible pour les gens en situation de cette précarité, les populations fragiles, les gens âgés, les gens très précaires, d'accéder aux soins hospitaliers, parce que justement la prise en charge, elle est complexe et elle est longue. Et ce n'est pas du tout ce qui est encouragé, parce que la dimension polypathologie, psychologique, sociale, éducation de la santé, prévention, tout ça, c'est, ma foi, quelque chose qui ne rentre plus dans le modèle de fonctionnement, qui est un modèle, encore une fois, marchand de l'hôpital.
Là où je vois une absurdité d'autant plus forte, c'est que justement on est dans un service public avec une forme d'universalité, avec normalement justement la possibilité, quand quelqu'un arrive, de pouvoir bénéficier d'autres services. C'est justement ce moment-là où on pourrait proposer des accompagnements sociaux ou par rapport aux enfants ou même par rapport au logement. Il y a des pathologies qui peuvent être liées à du mal logement, etc. Et justement cet endroit qui pourrait être central pour accueillir les gens, on pourrait parler aussi de, dans une moindre, enfin une plus petite échelle, des maisons de santé, etc. Et des projets aussi comme ça qui se développent. Et en fait, c'est pas ça qui est soutenu, c'est au contraire des choses qui aggravent les événements, les maladies. Les personnes arrivent plus tard ou même trop tard. Enfin, on a un cercle vicieux qui est, alors qu'on avait quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, à améliorer, comme tu l'as dit. Mais
voilà. Donc, que font les gens précaires et les gens fragiles, eh bien, ils ont peu accès à l'hospitalisation programmée, parce que pour des raisons à la fois psychologiques, hein, des difficultés d'accès aux soins, Isabelle en a parlé, on pourra en reparler, elle voit ça encore mieux que moi. Et donc on attend le dernier moment et on va aux urgences. Voilà. Alors ça, aux urgences, vous pouvez rentrer, il suffit d'une pièce d'identité, on ne vous demande rien. Apparemment, c'est gratuit, mais ça ne l'est pas, hein. Pas du tout. Mais apparemment, c'est gratuit, et ça, c'est ouvert H24, 365 jours par an, ce qui fait que les passages aux urgences, c'est multifactoriel, il y a plein de raisons, mais ça y contribue. On s'en passait de 10 à 20 millions de passages par an en France, hein, sur 10 ans. Alors, est-ce que les gens qui travaillent aux urgences, ben, peuvent compenser cette évolution hospitalière et apporter, eux, une réponse à ces difficultés, à ces problèmes de gens précaires et souvent très multifactoriels? Eh bien, malheureusement, non. Parce qu'on est complètement débordé sur le nombre de patients. L'urgence, elle est quand même sur la pathologie vitale. Les gens qui sont à menace de fonctionnelle ou vitale immédiate, c'est quand même eux qui restent prioritaires. Et tous ces patients qui sont complexes, qui demanderaient beaucoup de temps, eh bien, la réponse, elle est brève. Elle est centrée sur la plainte essentielle. Et puis, dès qu'il n'y a plus de risque immédiat, eh bien, il n'y a pas de lit pour les hospitaliser. Et puis, ils ne rentrent pas dans les bonnes cases. Donc, on ne peut pas les faire hospitaliser. Alors, c'était déjà avant la crise sanitaire et le Covid. Et la COVID, hein.
Oui, qui ont en plus aggravé et montré, bien entendu, encore plus les failles.
Avec la COVID. Et on reviendra à une situation qui ne sera pas améliorée dès que cette crise sanitaire, on l'espère tous, arrivera à terme.
Mais à quel prix?
Donc, voilà. Donc, ben, on répond à leurs besoins immédiats et apparents. Et puis, on les renvoie sur la médecine de ville, l'ambulatoire, les soins à domicile, sans du tout s'assurer que les conditions sont en place pour qu'ils puissent y accéder.
Ni que les causes sont vraiment reconnues, ni qu'il y ait des médecins, parce qu'on a de moins en moins de médecins.
S'ils arrivent avec des pathologies non traitées en ambulatoire à domicile, vous leur dites, bon, voilà, on a traité, on a mis tel médicament, ça va un petit peu mieux, rentrez chez vous et rappelez, faites vos soins. Ça recommence, bien entendu, puisque c'est le motif de leur admission, tout à fait au départ. Donc non, actuellement, et c'est perçu comme ça, hein, par les soignants, c'est difficile à vivre. On n'a pas de bonne réponse à apporter, en tout cas dans l'urgence, à ces pathologies chroniques, souvent maltraitées, souvent négligées, à des besoins psychologiques, sociaux. On ne s'assure pas que après le passage aux urgences, eh bien, les conditions sont remplies pour que le traitement soit correctement suivi, que les consultations aient lieu, etc. Tout ça, on n'a pas les moyens de s'en assurer. Donc, par rapport à cette population, oui, l'hôpital public, à mon avis, hein, ne remplit pas ses missions.
Oui, peut-être pour compléter, Philippe a souligné peut-être deux points qu'on n'avait pas développés avant sur justement la protection santé. Donc en fait, on estime qu'il y a 30% des personnes qui devraient avoir droit à la CMU qui n'ont pas accès, ce qu'on appelle le non-recours. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit pour un minima social ou la CMU, il faut faire des démarches pour obtenir. Et c'est, voilà, il n'y a pas d'automatisation de ces aides ou de ces soutiens. Et donc, ces démarches sont quelquefois compliquées à faire. Aujourd'hui, en plus, vous avez une dématérialisation des choses. Or, la plupart des personnes qui sont en précarité ont quand même du mal à avoir accès à l'outil informatique, quelquefois à l'utiliser aussi. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Les dossiers plantent. Si on a perdu ses papiers parce qu'on a été mis à la rue, ben voilà, il faut recommencer toute la démarche ou refaire les papiers avant de pouvoir accéder à la CMU. Voilà, donc plein de facteurs qui expliquent qu'en fait il y a un non-recours très important. Ce non-recours est très mal mesuré en France, mais il est important pour l'ensemble des revenus minimums et de la CMU et des soutiens, des allocations diverses. Aussi, certains en fait refusent aussi la CMU juste parce que c'est une stigmatisation de plus et qu'en fait on est quelquefois rejeté parce qu'on est à la CMU, y compris par des praticiens du monde médical. Donc c'est pas très facile à vivre non plus quand vous êtes entré dans une salle d'attente et qu'on vous dit que finalement on va pas vous soigner parce que le médecin ne prend pas les gens à la CMU. L'autre, un point qu'a souligné Philippe aussi, c'est la mobilité des personnes. Donc c'est vrai que pour les personnes en grande précarité, hein, la mobilité est un vrai sujet. Donc on parle beaucoup de mobilité en ce moment, mais vraiment pour des questions environnementales. Et il y a un sociologue récemment qui disait que le problème de la mobilité était bien plus social qu'environnemental et qu'il faudrait vraiment l'aborder de ce côté-là, puisqu'en fait, quand vous êtes en milieu urbain, vous êtes souvent relégué dans des quartiers un peu éloignés des centres-villes avec des grandes difficultés de déplacement. Et donc, et les gens n'ont pas forcément les moyens, les transports en commun n'existent pas, ou les gens n'ont pas les moyens de les prendre. Et donc, les pauvres font énormément de marche à pied, mais contraintes. Ils n'aiment pas la marche à pied, parce qu'ils en font beaucoup de façon beaucoup trop contrainte. Et donc, par exemple, je peux vous citer, à force de marcher, de demander de l'aide ou qu'on m'impose de faire des travaux dépassés, ça crée des problèmes d'articulation. Voilà. C'est compliqué quand il faut prendre 3 bus pour aller à un rendez-vous médical, il faut aussi de l'argent. Voilà. Récemment, une dame aussi en milieu rural, hein, pour aller voir son assistante sociale, doit faire 15 km à pied parce que l'assistante sociale ne se déplace pas et elle habite, et voilà, et c'est à 15 km de chez elle et elle fait les 15 km à pied. Voilà. Donc c'est quand même des difficultés de mobilité et de déplacement qui sont énormes. Voilà. Et puis je pense que les restes à charge, hein, peuvent être un vrai obstacle parce que quand vous touchez, autour de 500 euros ou 800 euros pour un couple, quelques euros, ça compte beaucoup et on est vraiment près, en particulier à la fin du mois. Donc si vous restez un reste à charge de 18 euros, tu disais en forfait.
Non, ça se fait le forfait passage aux urgences va être de 18 euros. Alors, il est pris, les frais hospitaliers sont pris à 80% par la Sécu, hein, ou la CMU, et puis à 20% pour la mutuelle. Donc, si vous n'avez pas de mutuelle, ça peut arriver à des sommes totalement astronomiques. Alors, lorsque les gens qui n'ont pas de mutuelle sont hospitalisés en urgence, là, par contre, effectivement, l'établissement intervient pour essayer de leur ouvrir des droits à une CMU complémentaire, parce qu'elle veut juste récupérer. Ses revenus, parce que il ne pourra pas payer, c'était absolument évident. Hein.
Mais à quel prix ? À quel prix financier, mais surtout à quel prix de santé ? Max, est-ce que tu as quelque chose pour ponctuer tout ça ?
Figure-toi que Gérald de Gentil va à l'hôpital également.
Non.
Et je vous propose d'écouter ça immédiatement.
Face de l'hôpital, de nos fenêtres les mêmes étoiles, quelques fantômes s'y installent, les yeux hagards et le temps pâle. J'habite en face de l'hôpital, mais j'entends jamais les gens qui ont mal. À chacun ses corbeaux, couché dans mon ciel des hélicos. J'habite en face de l'hôpital. Un gros bloc de béton glacial, transpercé de lys et longs couloirs. Je sais qu'il y glisse des brancards. Il doit y avoir une chapelle. J'ai pris le dieu du scalpel, et dans les mains tremblantes des pèlerins, une prière pour que tout se passe bien. J'habite ici et j'en peux plus de ma vue sur ces HU. Dans mes cauchemars, ça continue, le gyrophare du SAMU. Pourquoi j'ai pas une maternelle ou la piscine municipale où les gens nagent dans la joie, où les gens parfois se noient et on les retrouve à l'hôpital où se jouera mon ultime bataille. J'aurai ma chambre impersonnelle et du sommeil artificiel. À ma fenêtre sans balcon, une dernière vue sur pavillon. Je m'y pencherai nu comme un ver et deviendrai ce papillon capable d'atteindre la lune pâle.
Bonjour, je me présente Bernard, donc je suis retraité de centre hospitalier et militant syndical, ainsi que représentant, où j'étais représentant au CHSCT. Dès 2013, j'ai très vite adhéré à l'idée du revenu de base. Et j'ai signé le premier ICE à l'époque. Et pour moi, c'était important parce que ça me parle par rapport justement à notre histoire de la sécurité sociale et de notre service public de santé qui, je le rappelle, a été mis en place en 1945 à partir du travail du Conseil national de la résistance et du ministre du Travail de l'époque, Ambroise Croizat, dont il est important, je pense, de rappeler le nom. Et l'idée de ce qui relie en fait le revenu de base, c'est que notre système public de santé et de notre sécurité sociale, c'est un système qui est ouvert à tous. Donc une certaine forme, je dirais, de gratuité, qui est financée bien sûr derrière, donc financée par les cotisations, où chacun paye selon ses moyens et où chacun reçoit selon ses besoins. Ce qui est différent de ce qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui avec les systèmes d'assurance qui favorisent effectivement plus les gens qui ont plus de moyens financiers et les gens qui ont peu de moyens ne pourront pas se payer justement ces assurances, donc ne pourront pas avoir accès à ce système de santé. Et c'est pourquoi depuis des années, notre système de santé tend à être public, tend à être dégradé au profit des établissements de santé privés qui, eux, bénéficient aux financiers derrière, aux gros investissements. L'idée du revenu de base, aussi, je pense en tant que CHSCT, permet d'avoir un levier intéressant pour travailler sur les conditions de travail, permettre au personnel de travailler moins, d'avoir peut-être aussi intégré du temps de formation, et plus de temps aussi pour prendre soin de nos patients. Aujourd'hui, ce sont les actes de soins à répétition, et on voit à travers justement les événements qu'on vit depuis un peu plus d'un an, là, que nos personnels sont totalement épuisés. Mais ils sont épuisés, pourquoi ? Parce que ces conditions difficiles remontent bien plus loin que cette pandémie. Donc ça fait des dizaines d'années quand même qu'on détricote notre système public de santé et notre système de sécurité sociale. On le voit aussi avec...
Eh bien, on voit aussi avec le revenu de base pour la bonne santé du secteur médical. Je ne veux plus du marathon administratif des consultations, de la course au remplacement pour les congés, de pauvres sur le banc de touche des soins. M'essouffler face aux malades du chômage et du burn-out. Que la France soit championne des anxiolytiques. J'aimerais booster ma formation toute ma vie. J'aimerais avoir plus de temps pour coacher mes patients et diminuer les dépenses de santé.
Beaucoup. Donc là, on avait deux témoignages en plus de Philippe du vécu des personnels qui se retrouvent justement à la jonction entre ces arrivées de souffrance, cette obligation morale même, ce choix de métier qui a du sens, d'aider les autres, d'être en lien et d'être utile, et avec des moyens qui sont pas à la hauteur et qui font qu'on laisse repartir les gens. Avec le plus gros de leurs soucis et quelques pansements ou en tout cas une réponse insuffisante. Mais alors du coup, avec un revenu de base, qu'est-ce que ça changerait, me demanderez-vous ? Hein, vous me le demandez. Vous me l'avez demandé, je suis sûre que vous me l'avez demandé. Figurez-vous qu'il y a déjà plein d'expérimentations partout qui nous donnent déjà des réponses. Donc par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué, on pourrait, effectivement, Bernard nous le dit dans son témoignage, le revenu de base, c'est un outil dans un projet de société. Et en même temps, c'est un outil qui pourrait quand même vachement faciliter les choses. D'abord parce que ça permet individuellement, ça donne aux gens, on l'a vu avec les témoignages d'Isabelle, juste d'avoir une meilleure hygiène de vie et qu'elle soit choisie. Donc à Stockton, en Californie par exemple, ils ont alloué comme ça un revenu de base, alors qu'il était quand même... conditionné aux familles les plus pauvres de la ville. Et ils ont reçu l'équivalent de 500 euros par mois. Bon, c'est pas suffisant pour vivre. Et néanmoins, on voit dans la consommation que 40% des sommes, en fait, ont servi à acheter de la nourriture. 24% pour d'autres produits du quotidien et à peu près 11% pour tout ce qui est facture, 9% pour l'essence. Et après, de façon plus négligeable, il y avait la réparation du véhicule, les consultations médicales, des frais éducatifs. Et même, quelquefois, quand il y avait du petit plus, on retrouve la solidarité, des dons d'ordre caritatif. Moins de 1% a été dépensé pour l'alcool et le tabac. Donc ça, on oublie déjà, oublier l'histoire des pauvres qui se ruent sur cette manne inespérée et qui vont directement au tabac ou dans les supermarchés pour remplir de bouteilles. Ça ne, c'est pas du tout comme ça que ça passe. Au contraire même, comme ils vont mieux, ils sont moins stressés, ils consomment moins et les addictions se réduisent.
Ils n'ont pas acheté de télé non plus.
Non, ils n'achètent pas du tout de télé. Non, non, mais on voit l'écart énorme entre les préjugés qui sont largement répandus et relayés par les médias et la réalité des choses. Au Brésil, pareil, on voit qu'il y a une amélioration en termes de nutrition, surtout pour les enfants, de vêtements et de conditions de vie et donc de santé en général. En Namibie, on a même vu qu'il y avait moins de maladies. Par contre, plus de consultations aux pensionnaires, enfin là, aux dispensaires, pardon, parce que les gens vont justement ne pas attendre la dernière minute et ils vont être plus dans la prévention, dans le contrôle régulier, surtout pour les enfants. Donc ça, c'est par rapport à la consommation. On voit que la consommation va améliorer les conditions de vie, d'hygiène. Et on voit aussi au niveau plus global, au niveau plus collectif, qu'il y a une baisse des maladies physiques, mentales et des violences. Au Canada, par exemple, après seulement 4 ans d'expérimentation, ils ont évalué une baisse de la fréquentation des hôpitaux de 8,5% liée à une forte diminution des accidents du travail, mais aussi des admissions aux services hospitaliers d'urgence dont on a parlé, par rapport à des accidents de la voie publique ou alors des violences domestiques, surtout liées à l'alcool. Et en parallèle, une baisse des consultations chez les généralistes qui étaient plus spécialisées, plus spécialement liées aux troubles mentaux. Donc on voit exactement tout ce dont vous avez parlé, comment le revenu de base en apportant de la sécurité et de la liberté, permet aux gens de prendre plus soin d'eux et juste d'être moins malades. Chez les Cherokees, par exemple, aux États-Unis, ils ont une expérimentation qui dure depuis 1996. On a un déclin significatif de la pauvreté, moins de 50% des Cherokees qui vivent sous le seuil de pauvreté par rapport au début, donc 1996. Une baisse des problèmes de comportement, moins 40% de criminalité, moins de délits commis par les jeunes, une chute de l'abus d'alcool et de drogue, une baisse aussi des troubles psychiatriques, décidément. Donc on voit que la sécurité individuelle agit aussi au niveau collectif puisque on a concrètement des économies, ça nous promet des économies en termes de sécu. Mais qu'attend-on ? Et enfin, ce qui a été aussi évoqué, c'est que le revenu de base permet une baisse du stress et donc une meilleure confiance en la vie et en soi-même. Ça a été évalué en Inde, par exemple. Alors ne me demandez pas comment, mais ils ont fixé qu'il y avait une anxiété diminuée de 13,4%. C'est quand même précis. En Belgique, parmi des joueurs au loto, c'est un loto qui s'appelle la loterie à vie. Et donc, ils ont comme ça leur loto, mais tous les mois, jusqu'à la fin de leur vie, eh ben, il y a moins de symptômes de stress, moins de difficultés de concentration, moins de problèmes de santé. En Finlande, ils ont plus confiance en l'avenir. En Allemagne, il y a une augmentation du bien-être. Ils mangent des fruits, plus souvent de la viande. Ils dorment mieux, ils se sentent plus tranquilles. En fait, ils n'ont plus peur de la précarité, quoi. Et en France, pour les quelques-uns qui ont participé à mon revenu de base, c'est une sorte de loterie. Pareil, baisse du stress lié à la sécurité financière, une meilleure nutrition, un meilleur sommeil, évidemment des soins médicaux. On n'a pas parlé des soins dentaires, mais c'est aussi les sans dents, c'est aussi un critère assez révélateur. Max, est-ce que tu as encore une petite musique avec laquelle on pourrait enchaîner sur mon dernier témoignage ?
Eh bien, écoute, je t'en prie, eh bien, la santé de ceux qui restent, c'est Jacques Doué, cette chanson-là.
Merci.
Il suffit que vous sachiez que je m'en allais mourir en somme, de pied ferme et de plein gré. Je m'en allais mourir comme le jour allait se coucher. Mais quand on a aimé la vie, quand elle vous l'a bien rendue, on ne fait pas son dernier lit du premier canal venu. On ne lui fait pas l'insulte de mourir ad libitum, de partir comme un inculte sans boire un dernier coup de rhum. À la santé de ce qui reste. Je me suis serré la main au canal Saint-Martin, en plein milieu du mois d'août. Je me tenais droit debout, je voyais la mort en face. Je m'apprêtais à sauter lorsqu'une vague de crasse vint se briser à mes pieds. Quand on a vécu sa vie proprement et jusqu'au bout, on ne va pas finir ainsi au fond d'un tuyau d'égout. Je suis allé sur l'autre rive, chanter mon tédéum, me jeter à la dérive et boire un dernier coup de rhum. À la santé de ceux qui restent. Le coin n'était pas funeste, mais le vent était froid. Prudent, j'ai gardé ma veste et mon écharpe de soie. Puis dans un élan suprême, comme j'allais me noyer, une fille sans problème va me regarder baigner. Quand on a fait du spectacle à l'envers et à l'endroit, on voudrait bien sans obstacle faire le dernier pour soi. J'ai voulu mes funérailles dans un certain décorum. J'ai attendu qu'elle s'en aille et j'ai bu un dernier coup de rhum. À la santé de ceux qui restent. Puis dans un dernier effort, j'ai levé les yeux pour voir une fois encore et la lune et les cieux. Mais la nuit était posthume, la lune n'y était pas. Dans un mélange de brume, le jour se levait déjà. Quand on a vécu la nuit, qu'on n'a jamais eu sommeil, on ne va pas mourir ainsi en plein jour et au soleil. J'ai réduit mes funérailles au plus strict minimum. C'est la mort dans les entrailles que j'ai bu un dernier coup de rhum. À la santé.
Jacques Douai sur les ondes de Radio Campus 106,6, et alors qu'il est déjà temps de se dire au revoir. Oh, mais non.
Bon, mais écoutez, un grand merci à nos invités de venir partager vos expériences personnelles et aussi d'avoir pu être le porte-parole, les porte-paroles d'un certain nombre de personnes qu'on ne reçoit pas et qu'on a du mal à aller voir et qui hésitent la plupart du temps à témoigner parce que ce qu'ils vivent, c'est déjà dur. Donc, un grand merci Isabelle, un grand merci Philippe. Revenez quand vous voulez. Et pour nos auditeurs, on vous rappelle qu'il y a une initiative citoyenne européenne à signer pour avoir des expérimentations en Europe et enfin soulager Isabelle et Philippe de leur torture de colère et de tristesse et d'angoisse. Et le mois prochain, Max, on se retrouve sur un autre thème, méga rien à voir ou presque.
Les vacances.
Ah non, c'est pas ça. Mais non, la monnaie. Bon, la monnaie peut mener aux vacances, je te l'accorde. Mais comment on peut se réapproprier la monnaie, comment on peut la démocratiser à travers certaines versions de revenus de base qui, en plus de donner suffisamment pour vivre à chacun, etc., eh ben, refondent la création monétaire.
Eh bien, ça sera une très bonne initiative. Et puis, on peut rappeler qu'il existe la page Facebook du Mouvement français pour le revenu de base, la fameuse signature de l'ICE.
Oui.
Nous, là, c'est un peu plus compliqué. Allez, t'as encore une minute pour dire au revoir.
C'est pas plus compliqué. Je vous cite ice.mfrb.fr. C'est pas compliqué.
C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Isabelle. Philippe, j'ai un trou de mémoire, tout d'un coup, ça ne va pas du tout. Et puis, on se retrouve donc du coup le mois prochain.
Merci à vous, bonne journée.
Au revoir.
Merci.
Maison de santé, pour ça nous étions bien soignés. Quand nous nous jetions sur les murs, la garde nous donnait des piqûres.
Wah 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 wah.
Moi je me prenais pour la Tudor, c'est pourquoi que j'étais sous clé. Pourtant j'ai fait bien moins de tort que celle qu'on a emprisonnée.
Wah 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 wah.
Mon copain c'était Napoléon, c'était un bien brave garçon, mais il voulait, c'était son problème, se construire sur l'île Sainte-Hélène.
Wah 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 wah.
Il y avait aussi un pape qui nous prêchait la pauvreté, tout le monde riait sous cap, sauf l'aumônier qui était gêné.
Wah 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 wah.
Un autre se disait général, sa phobie c'était les grenades. Je vois pas ce qu'il avait d'anormal, les vrais ils sont aussi malades.
Wah 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 wah.
Il y avait une marquise, toujours couchée plutôt qu'assise. Elle aurait pas été en dents, qu'elle aurait fait.